Eh bien, bonjour aux auditrices et auditeurs de Mosaïque FM. Bernard Becca au micro des partageurs d'émotions. Une nouvelle émission et une nouvelle émotion. Voilà, vous voyez, je bafouille tellement je veux dire les choses qui me tiennent à cœur. Une nouvelle émission pleine d'émotions, puisque j'ai le plaisir de recevoir... Alors, j'allais presque dire une amie, tellement nos échanges épistolaires sont chargés de gentillesse et d'enthousiasme. Donc l'auteur qu'on va recevoir aujourd'hui s'appelle Monique Dahan. J'ai le plaisir d'éditer un de ses manuscrits qui s'appelle Clair-obscur, dont on va évidemment longuement parler tout à l'heure. Et auparavant, pour connaître un petit peu mieux notre chère Monique, je laisse la parole à Pierre qui va nous lire quelques lignes de sa biographie.
Biographie. Monique Dahan est née à Oran en 1942. Après ses études universitaires et un parcours professionnel varié, elle crée un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine à Dijon. Durant cette période, la rigueur mathématique et juridique ne laissera aucune place à son imagination, qui soupire néanmoins de temps en temps à l'idée des romans qu'elle aimerait écrire. Désormais libérée du poids de ses responsabilités par l'arrivée opportune de la retraite, elle peut enfin se saisir de la plume pour laisser libre cours à son inspiration.
Voilà, alors la première question que je poserai tout à l'heure à Monique Dahan, c'est de savoir comment on passe d'Oran à Dijon. Je connais beaucoup de gens qui sont nés Oran et qui sont passés d'Oran à Marseille, d'Oran à Paris, mais alors d'Oran à Dijon, je suis curieux de savoir comment s'est fait ce chemin. Et en attendant, Pierre va nous lire... une page du livre Clair-obscur que nous avons donc édité et qui se trouve également sur le site jelivremonhistoire.com.
Lecture. Il fait froid dans la chambre. Dehors, la température est négative. Ils s'écroulent ensemble dans le lit et se pelotonnent sous les couvertures. Ils s'embrassent, se caressent, se murmurent des mots qui rassurent. Et tandis qu'ils se fondent et s'envolent vers un monde où rien ne semble pouvoir les atteindre, le premier char allemand prend sous ses canons les factionnaires du fort Lamalgue. Il est 4h25. Avant que le central téléphonique ne soit totalement isolé, les officiers français ont le temps de donner l'alerte. Le navire amiral, le cuirassé Strasbourg, lance le branle-bas général à l'escadre, tandis que la Luftwaffe illumine le port pour permettre la surveillance des navires. Une heure plus tard, les chars allemands ont contourné les obstacles et menacent l'arsenal du Mourillon. Les amiraux donnent alors l'ordre du sabordage. Les grands navires aux quêtes s'embrasent et se couchent lentement dans un tonnerre de ferraille meurtrie. Certains d'entre eux brûleront pendant plusieurs jours. Trois sous-marins parviennent à s'échapper malgré les champs de mines magnétiques et les filets métalliques fermant la passe. Blottis l'un contre l'autre, Maurice et Angèle ont assisté à ce terrible sacrifice. Leur chambre est illuminée par les fusées éclairantes et les lueurs rouges sang des navires en flammes. Le vacarme est assourdissant. Ils pleurent en silence. Leurs mains entremêlées, aux articulations blanchies, semblent soudées. À 7h du matin, le massacre est consommé. Les Toulonnais, hébétés, convergent vers le port, mais sont violemment dispersés par les troupes allemandes qui ont pris position.
Alors, après cette lecture et cet extrait de la valse de Faust de Gounod, on est complètement plongé dans l'atmosphère du livre, entre guerre et passion, sang et amour. Monique Dahan, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Bernard, je suis ravie d'être là.
Je crois que là, très vite, on s'est, comme je viens de le dire, retrouvé plongé dans l'atmosphère de ce livre qui m'a passionné à sa lecture. Clair-obscur, les aventures de Maurice. Alors, pour les auditrices et auditeurs, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce long ouvrage de plus de 300 pages ?
Ben écoutez, Maurice était l'un de mes clients. C'est comme ça que nous nous sommes connus. Et le personnage était tellement attachant, tellement humain, que très vite nous avons lié des liens d'amitié profonde et sincère. Et petit à petit, il s'est confié à moi, et c'est ainsi que, pour lui rendre hommage, lorsque j'ai eu le temps de le faire, j'ai voulu écrire l'histoire de sa vie.
Ah oui, parce que c'est, sa vie est formidable, enfin, c'est une saga.
C'est un homme droit, qui est toujours resté fier, droit et généreux, et qui a traversé une bonne partie du XXe siècle en menant toujours sa barque avec ses valeurs profondes, qui étaient l'honnêteté, la générosité, et il était doué, il est doué, parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire.
Aujourd'hui
même.
Il
a 90 ans.
Ah,
ben... Et il était remarquablement intelligent.
Alors, qui était-il dans le fond, Maurice ?
Maurice, c'est un petit garçon qui a été, qui a eu le malheur de tomber dans une famille où il y avait la pauvreté, l'illettrisme, et qui a été délaissé par sa mère parce que la mort précoce de son père a plongé sa mère dans un désespoir presque irrécupérable. Et elle s'est désintéressée de lui, il s'est élevé tout seul. Il a toujours été très curieux, très observateur, et il a tout ce qu'il a acquis, il l'a acquis par sa soif de connaître, et qui a cette connaissance qu'il a amassée tout seul lui a permis de mettre en valeur toutes les qualités dont il était doué.
D'accord. Alors,
il savait tout faire.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention dans la vie de ce héros, hein, on va l'appeler comme ça parce que c'en est un.
Oui. Vraiment un héros. Alors, ce qui m'a vraiment ébloui, c'était la bonté qui se dégage de lui. Mais c'est quelque chose qui se perçoit à la vue. Il a un visage d'une bonté extrême. Mmh. Et ce visage reflète effectivement ce qu'il est à l'intérieur. C'est quelqu'un qui est très compréhensif, très tolérant et qui tend la main volontiers. Et je pense que ça se ressent dans l'ouvrage. Je lui en ai envoyé évidemment un exemplaire. Mmh. Il l'a lu et il m'a dit qu'il était très ému parce que il pensait pas, vous voyez, il est en plus très modeste, il ne pensait pas que je puisse avoir un jour envie d'écrire son existence, le cours de sa vie.
Très bien. Donc je laisse évidemment aux auditrices et auditeurs le plaisir de découvrir cet ouvrage, mais qui n'est pas le seul, hein, écrit par vous, Monique Dahan, vous en avez écrit plusieurs, donc comme on l'a pu le voir dans votre biographie, l'écriture était quelque chose de très important pour vous.
Oui, c'est vraiment une grande partie de ma vie. D'ailleurs, lorsque j'étais dans mon métier, je faisais des grandes lettres à mes clients et quelquefois ils me disaient « Écoutez, écrivez-nous plus style télégraphique parce qu'on n'a pas le temps de lire 3 pages.
» D'accord. Donc vous étiez vraiment passionné. Alors comment on fait pour passer de Oran à Dijon, Monique ?
Ben, je ne suis pas passée directement de Oran à Dijon. Moi, d'accord. Je suis née à Oran, donc en 1942. Hmm. Et à la fin de la guerre, ma mère s'est fait rapatrier parce que mon père avait fait la campagne d'Italie avec les Américains. Hmm. Et ma mère a été rapatriée avec moi, donc en 1945. Mmh. Et en 1945, elle m'a confié à ses parents qui habitaient Antibes, le Cap d'Antibes. Et les premières années de ma vie se déroulent au Cap d'Antibes.
D'accord. Donc en fait, et de l'Algérie.
Mes parents se sont installés à Lyon. Et je suis partie à Dijon quand j'avais 26, 27 ans, pour des raisons professionnelles.
D'accord. Donc en fait, de l'Algérie, vous n'avez que peu de souvenirs.
J'en ai très peu. J'y suis retournée quand j'avais 12 ans, juste en voyage quelques jours à Oran. Mais autrement, de ma petite enfance, non, j'en ai pas, parce que j'étais vraiment trop petite.
Et mais je reviens à l'écriture. Qu'est-ce qui vous a poussé à ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà envie de faire enfant? Enfin, vous étiez bonne en français. C'est quoi?
Quand j'étais à l'école communale, je faisais des compositions françaises à l'époque. Et je racontais des histoires par épisode, d'une semaine sur l'autre.
D'accord.
Alors, je me souviens que mes petits camarades attendaient l'heure de la lecture des compositions françaises pour avoir la suite des histoires.
D'accord. Et donc, avec tous les livres que vous avez écrits, il n'y a pas eu de moyen de vous faire éditer, enfin de faire de cette passion un véritable métier?
Ben non, parce que j'en faisais un autre qui m'occupait vraiment à 120% de mes capacités.
Oui.
Donc, j'avais pas le temps de le faire. Mais dès que j'ai vendu mon affaire et que j'ai pu me désintoxiquer, j'ai pris la plume et je la lâche plus parce que j'ai vraiment envie de le faire. Je pense que j'écris comme d'autres composent de la musique ou peignent des tableaux. J'écris parce que je le sens comme ça.
D'accord. Alors quel est le premier livre que vous avez écrit? On va vous connaître un petit peu mieux au travers.
Alors, le tout premier, c'est le conte pour enfants, c'est Lola.
D'accord.
Et puis après, celui-là même, je l'avais déjà bricolé un peu quand même pendant que j'étais en activité. Mais je l'ai fini après la retraite. Et après, le premier roman, vraiment, c'est l'histoire, la vie de ma grand-mère, qui est La braise et la cendre.
D'accord. Que j'ai lu aussi, qui était très, très passionnant. Et puis il y en a eu d'autres, il y a eu Comme un boomerang, il y a...
Et le tapis rouge pour l'enfer.
Le
point de non-retour.
Le point de non-retour, absolument. Ouais. Bon, ça fait beaucoup de livres, et en ce moment, vous êtes toujours dans l'écriture? Vous en écrivez un nouveau?
Là, je suis en train de vous en cuisiner un autre, qui n'est pas loin d'être à point. Là.
Ah.
Je pense qu'avant la fin du mois, je vous l'enverrai.
D'accord. Et est-ce que vous avez eu des retours sur tous ces précédents livres? Est-ce que vous avez été édité à compte d'auteur, il me semble?
Oui, j'ai été édité à compte d'auteur une fois avec La braise et la cendre.
Oui.
Mais enfin, le livre a été édité, mais il n'y a eu aucune promotion derrière, ce qui fait que... Il est resté très confidentiel.
Ouais.
Une deuxième fois, avec un système qui était gratuit pour l'auteur, mais le livre a été édité dans une version tellement odieuse, hideuse, que j'ai même pas voulu que l'on commence une commercialisation, ni même une promotion, parce qu'il était trop vilain. Et voilà, après, j'ai eu l'immense bonheur de vous connaître.
C'est gentil. C'est fou parce que je suis tellement dans l'émotion de la discussion avec vous, Monique, que je n'arrive pas à trouver des questions. Alors, je vais revenir quand même sur Clair Obscur et sur Maurice et sur l'extrait qu'on a lu. Donc, ça se passe pendant la guerre. Cette histoire entre Maurice et la femme qui passe un moment là dans la chambre avec lui, là aussi, c'est du vécu, c'est devenu sa femme. Qui c'était?
Oui. Non, c'est pas devenu sa femme. C'est du vécu, parce que lui, il se trouvait là parce que il avait été blessé et on l'avait ramené à Toulon, qui n'était pas occupé encore par les Allemands, ça allait pas traîner. Et il était dans un hôpital. Donc, on l'avait soigné et comme il connaissait personne et qu'il s'ennuyait un peu, il avait trouvé que cette femme était sympathique. Elle tenait un petit bistrot et il passait son temps là. Il dit qu'il ne savait pas quoi faire. Et bon, elle a remarqué qu'il restait longtemps qui la regardait avec un petit air de chien battu, parce que c'est un homme très sensible, très, très aimant. Il est prêt à aimer vraiment, à aimer sans, pas forcément avec des arrière-pensées. Mmh. Et à donner son affection. Et il avait soif d'en recevoir, surtout.
Oui.
Et puis, bon, un jour, cette femme qui avait été abandonnée par son mari, ma foi, elle a trouvé que ce petit jeune homme, il était sympathique, il était attendrissant, et puis de fil en aiguille, ils sont devenus amants.
D'accord. Et alors, et qu'est-ce qui s'est passé pour votre héros après la guerre ?
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, qu'est-ce qui est devenu sa vie ? Comment les choses ont-elles évolué pour lui ?
Lorsque les Allemands sont entrés à Toulon, ils se sont bien doutés que Maurice était en danger d'être fait prisonnier. Mmh. Donc, elle lui a dit de partir. Ça leur a déchiré le cœur à tous les deux, mais c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Donc, il est parti avec l'idée de remonter vers Chartres. Mmh. Mais bon, c'était pas très facile de remonter vers Chartres. Alors, il a trouvé des gens qui travaillaient à la SNCF, parce que lui, avant la guerre, il était rentré à la SNCF.
D'accord.
Et en tant que cheminot, il a bénéficié de l'aide qui règne dans ce milieu des cheminots, et on l'a acheminé jusqu'à Paris, caché dans un coffre où il a souffert 1000 morts, parce que le coffre était dans un wagon rempli de soldats allemands, et il fallait évidemment pas qu'il se fasse remarquer. Mmh. Enfin bref, il arrive là-bas. Et de là, il arrive à Chartres pour trouver sa mère dans le plus grand dénuement. Mmh. Et voilà. Et ensuite, il est à la fin de la guerre, il a repris ses fonctions à la SNCF. Mmh. Et puis là, il s'est marié avec une petite jeune femme qui malheureusement a eu une grippe, un rhume mal soigné, et qui a tourné en tuberculose, dont elle est morte, bien qu'il n'ait jamais... Tous les efforts qu'il a faits n'ont servi à rien, et elle est décédée. C'est
D'accord.
à ce moment-là qu'il a quitté la Savoie, où il habitait avec sa petite femme, et il est revenu, il a les mains dans les poches, il s'est fait muter, et il a atterri à Dijon.
D'accord.
Voilà, et là, comme il n'avait aucun bien, rien qui lui appartienne, mmh. il a loué une chambre dans une maison qu'offrait une femme qui était divorcée, qui habitait là avec ses deux enfants, ses deux filles, et finalement, il a épousé cette femme.
D'accord, mais il a une vie...
Et ensuite... Il avait des mains d'or,
oui.
Il a eu, il a bâti, je peux dire, un empire, à sa mesure à lui, c'était vraiment un empire. Il était seul sur le créneau des instruments chirurgicaux de pointe pour le traitement du cancer de l'utérus.
Ah bon, ah oui, ça c'est très spécialisé.
Il s'est très spécialisé parce qu'il avait... l'une des filles d'Yvonne, qu'il a épousée donc à Dijon, était la femme d'un cancérologue.
D'accord.
Et ce cancérologue, un jour, est parti aux États-Unis à un congrès où on a présenté un instrument qui était révolutionnaire, qui permettait de faciliter les applications de la radiothérapie dans le traitement du cancer de l'utérus. Et il est revenu à Dijon avec cet instrument qu'on avait bien voulu lui confier. Mmh. Et il a montré à Maurice en disant « Regarde comme c'est bien ». Et Maurice lui dit « Oui, mais à mon avis, il faudrait peut-être l'arrondir ici, le modifier. Mmh. » Il dit « Si tu veux, je vais te faire le même, mais je pense en mieux. » Et quand le cancérologue a vu ce que Maurice avait fait, il était vraiment étonné et il a dit « Mais tu as raison, c'est tout à fait mieux. »
D'accord.
Et il a commencé à utiliser cet instrument. Les autres cancérologues lui ont dit « Mais c'est drôlement bien ça, où est-ce que tu l'as eu ?» Et finalement, Maurice a commencé à fabriquer des instruments pour les différents cancérologues de Bourgogne et puis en plus de France, jusqu'à ce que la demande soit tellement forte qu'il a démissionné de la SNCF et il a créé une petite entreprise qui est devenue exportatrice et la première dans sa catégorie.
Eh bien, écoutez, on ne peut que le féliciter. Hein. C'est un beau parcours, c'est un parcours romanesque en tout cas. On arrive malheureusement déjà au terme de cette émission. Monique, je vous redis toute mon amitié. Je vous redis tout le respect que vos différents livres soulèvent en moi.
Merci beaucoup Bernard. Et moi, je tiens à vous dire aussi que le jour où, par hasard, nous nous sommes rencontrés par site interposé, c'était pour moi un grand jour.
Eh bien, écoutez, c'est partagé. Merci en tout cas encore. Et puis je vous dis à très très bientôt, Madame Dahan. À très bientôt.
Merci beaucoup, Bernard. Passez une bonne journée.
Vous aussi, au revoir.